Bonsoir. La campagne annuelle internationale connue sous l'appellation 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre prend fin dans 3 jours exactement le 10 décembre 2023. Depuis le 25 novembre, lors du début de la campagne, plusieurs activités ont été organisées en RDC pour sensibiliser sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Selon le rapport 2023 de l'UNICEF, plus de 38 000 cas de violences faites aux femmes ont été enregistrés en 2022 au Nord-Kivu seulement. Le document note une augmentation de 37% au cours des 3 premiers mois de 2023 par rapport à la même période il y a un an. À l'occasion de ces 16 jours de campagne d'activisme contre les violences basées sur le genre, ONU Femmes affirme qu'il n'y a pas d'excuse à la violence contre la femme et la jeune fille. Quelle analyse faire de ces 2 semaines d'activisme sur l'élimination des violences à l'égard des femmes? Comment les femmes peuvent-elles contribuer à la paix et à la sécurité en cette période électorale? Nous en parlons ce soir avec 3 femmes activistes des droits des femmes. Madame Julienne Lusenge, qui est activiste des droits des femmes. Bonsoir Madame Julienne Lusenge.
Bonsoir Kelly.
Aussi dans ce studio avec nous, Madame Elodie Tamuzinda. Bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly.
Également activiste de droits des femmes. Et Madame Ali Modi, activiste de droits des femmes. Bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Suivez-nous aussi en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
À 2 semaines du scrutin, les candidatures féminines en campagne électorale sont de plus en plus visibles à travers les affiches, notamment à Kinshasa. Et d'après les listes définitives de la CENI, 17% des candidats à la députation nationale sont des femmes, alors qu'à la députation provinciale, les femmes ont participé à hauteur de 25%. Si les cadres permanents des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle, qualifient ce taux d'alignement des femmes sur les listes électorales de faible, la députée nationale Christelle Wanga encourage les femmes à massivement exercer leur droit de vote en privilégiant les candidatures féminines. Michel Kifinda pour le reportage.
Comparativement au processus de 2018 qui a aligné 11,7% des femmes à la députation nationale et seulement 11% d'entre elles sur les 500 ont été élues, le taux de participation est légèrement amélioré. Au cours de ce processus de 2023, salue Julienne Lusenge.
Je me réjouis de voir la participation des femmes aux élections, mais c'est des partis politiques qui n'ont pas aligné les femmes.
Ce qui pousse Annie Matundu de CAFCO d'affirmer que la réforme de la loi électorale n'a pas beaucoup aidé à la participation de la femme.
L'article 13 qui stipule que les listes des partis politiques qui vont aligner 50% des femmes seront exemptées des frais de caution, mais il n'y a pas eu de mesures contraignantes.
L'auteur de l'amendement de l'article 13 de la loi électorale estime que le secret pour l'élection des femmes reste la campagne électorale. Christelle Vuanga.
Lorsque j'ai porté cet amendement sur l'encouragement des candidatures féminines, c'était évidemment dans cet esprit de booster les femmes à être non seulement éligibles, mais aussi à être électrices.
L'élu de la FUNA invite les femmes électrices à accorder plus d'attention aux candidatures féminines afin de garantir un taux élevé de participation des femmes dans les institutions du pays.
Merci Michel Kifinda pour ce reportage. Julienne Lusenge, je rappelle que vous êtes activiste de droits des femmes. La campagne annuelle internationale, connue sous l'appellation des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, prend fin le 10 décembre 2023, c'est dans 3 jours. Cette campagne a commencé depuis le 25 novembre. Plusieurs activités ont été organisées à travers la RDC. Quelle analyse vous faites de cette campagne 2023?
Oui, comme toujours, les organisations organisent beaucoup, utilisent cette période pour marquer, pour impacter, pour informer plus sur les droits des femmes, mais aussi sur ce que les femmes apportent comme contribution dans l'avancement des droits humains dans le pays. Et les organisations organisent des activités pour lutter contre les violences, mais aussi pour la restauration de la paix. Et aussi, on voit le rapprochement des organisations avec le gouvernement. On a vu le ministère du genre participer aux différentes activités qui ont été organisées, et le ministère lui-même aussi a lancé cette période de 16 jours d'activisme. Donc, c'est un moment important pour nous, en tant qu'activistes, pour parler encore plus, marteler encore plus sur les droits des femmes, sur le droit des femmes à vivre sans violence. Le droit des femmes à vivre dans un pays où les femmes sont respectées, les filles sont respectées, où chaque femme peut se sentir en sécurité. Un jour, j'étais dans une réunion à Danemark et la première ministre là-bas, elle a dit « Notre pays, Danemark, c'est un pays où les femmes vivent à toute sécurité. Toute femme a la joie de vivre au Danemark. » Nous pensons aussi qu'un jour, ici dans RDC, nous pourrons dire que la RDC, c'est un pays où les femmes se sentent en sécurité. C'est ça le motif pour lequel nous continuons à lutter, nous continuons à organiser des activités, nous continuons à parler sur les questions de la sécurité et de la paix.
Madame Elodie Tamuzinda, vous pensez que toutes les activités organisées pendant cette période de campagne annuelle internationale sur les violences basées sur le genre suffisent-elles à lutter efficacement contre les violences basées sur le genre?
Oui, merci pour la question, Madame Kelly. C'est sûr que toutes les actions doivent être prises en compte. Nous ne négligeons aucune action, puisque même les actions des femmes maraîchères, peut-être qui n'ont même pas accès aux médias, qui n'ont même pas accès aux caméras, ont leur message qu'elles lancent au sein de leur communauté. Et nous savons que les violences basées sur le genre, c'est surtout dans nos communautés que cela sévisse. Et donc, s'il y a des jeunes filles qui parlent à leur père dans les lycées, cela est pris en compte. S'il y a dans les quartiers, des femmes ou des jeunes qui luttent contre de ces fléaux, cela est pris en compte. Donc, aucune activité n'est laissée pour compte. Néanmoins, nous devons noter aussi la sensibilité de cette période. 2023 n'est pas comme les autres années. Vous voyez de quelle manière, d'abord, les femmes ont peiné à avoir même le minimum pour sensibiliser sur les processus électoraux ou former leurs pères qui sont candidates. Du moment où il y a cette difficulté, les femmes sont en train d'abord de courir ça et là, il y a aussi cette difficulté d'avoir même l'argent pour payer la salle afin que les femmes se rencontrent et parlent de toutes ces activités d'une manière coordonnée. Nous ne disons pas que ces actions éparpillées n'ont pas peut-être un pourcentage, même si c'est négligeable, des contributions, mais nous voulions quand même que cela soit bien coordonné, que nous sachions comment le faire par province et au niveau national. Nous, au sein de la Synergie des femmes pour la paix et la sécurité, nous avons tout fait pour interagir avec les nôtres qui sont en province, mais voilà que nous avons préparé un forum national qui n'a pas pu se tenir. Et vous comprenez que tout ça sont des limites, sont des contraintes, mais et nous ne négligeons pas ces actions. Sauf que nous devons y aller.
La conférence n'a pas eu lieu.
Oui, tout ça, nous parlons des contraintes d'ordre financier, des contraintes d'ordre technique aussi. Nous parlons du contexte actuel que nous voyons par rapport au processus électoral. Mm-hmm. Et donc, vous comprenez que ça pouvait être mieux coordonné. Cela atteindrait quand même les objectifs et les résultats auxquels nous sommes assignés. Et donc la situation n'est pas la même. Nous ne pouvons pas dire que ces actions ont réellement atteint les objectifs tels qu'envisagés.
Madame Annie Maudit, depuis le lancement de cette campagne, pensez-vous qu'il y a des améliorations en RDC?
Parler des améliorations, c'est toujours, pour moi, je trouve que sur le plan théorique, nous pouvons dire que certains discours essayent d'évoluer, mais sur le plan pratique, il y a souvent contradiction entre les discours et les actions que mènent les autorités ou les leaders, parce que la question des droits des femmes, la question de sécurisation, la question de vivre dans un environnement où il y a la paix, où il y a le respect de droits de tous, y compris des femmes, ce sont des questions qui doivent être portées par l'État. Mais nous voyons, comme Madame Elodie a dit, que nous sommes, l'année 2023 n'est pas comme toutes les autres années. Nous sommes en pleine campagne des 16 jours d'activisme qui coïncide avec la campagne électorale. Si nous regardons par exemple sur tous les candidats qui mènent leur campagne pour être élus à la tête d'un pays où la majorité des électeurs est constituée par les femmes, vous allez voir que aucun d'entre eux n'a fait mention des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme. Jusque-là, nous avons encore 3 jours pour que la campagne des 16 jours d'activisme se termine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas une prise de conscience au plus haut niveau des décideurs sur des questions du droit des femmes, sur des questions d'éradication des violences basées sur le genre, sur les questions de la sécurité humaine des femmes. Parce que quand nous parlons sécurité, nous, dans la synergie des femmes pour la sécurité et la paix, nous ne voyons pas que la sécurité physique, c'est la sécurité humaine dans son entièreté. Parce que même si les femmes ne sont pas, au fait, je vais dire, lorsqu'elles ne sont pas violées physiquement, ça n'est pas pour autant dire que leur santé mentale est intacte. Parce que quand on vit dans l'insécurité, toute la charge communautaire reste sur les épaules de la femme, sauf que cette femme ne participe pas dans le processus de prise de décision, que ce soit pour le processus de paix en cours ou en pause, je ne sais pas comment les déterminer, de Nairobi ou de Luanda, il n'y a pas assez de femmes. Et pour les processus électoraux aussi, nous voyons 17% des femmes, alors qu'il y a une mesure incitative dans la loi électorale, nous ne pouvons pas célébrer ça. C'est faible, parce qu'on ne peut pas dire 11% en 2018 sans mesure incitative et célébrer 17% en 2023 avec mesure incitative. Il était important que nous puissions avoir une mesure contraignante. Et c'est ça tout le problème, en fait. Les lois, même lorsqu'elles sont bien élaborées, elles ne sont pas respectées, elles ne sont pas appliquées. Mais cette fois, pour la loi électorale, les droits politiques de la femme a régressé, puisque dans cet article 13, on a même enlevé la notion de parité qui est constitutionnelle pour remplacer avec la prise en compte de la dimension genre, qui n'est pas du tout la même chose. Cette prise en compte, ça peut parler de la discrimination positive, mais la parité, elle est numérique. Et en tant qu'un principe constitutionnel, il devrait avoir des mesures contraignantes pour qu'après on compare. Si les partis politiques mettent les femmes, ils ne payent pas des cautions, on est d'accord. Mais les partis politiques, ils refuseraient de mettre les femmes, puisque c'est inconstitutionnel.
Mais est-ce qu'il y a des partis politiques aujourd'hui en RDC qui ont refusé d'aligner des femmes?
Ça, c'est la CENI. Ça, cette question reste à la CENI de nous publier. Autant ils ont publié les pourcentages des femmes, 17% pour les élections nationales et 25% pour les élections provinciales. Nous exigeons de la CENI de publier les statistiques sur le parti politique qui ont aligné les femmes et qui ont bénéficié de la mesure incitative. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous a pris 5 ans de plaidoyer, 5 années du travail et proposer une formulation pour rajouter la mesure contraignante dans l'article 13. Et vous savez, ceux qui siègent pour voter, c'est des parlementaires qui sont payés par l'argent du contribuable. Donc, quelque part, il y a une redevabilité de la CENI de nous dire cette mesure qui est passée à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça a produit? Est-ce qu'il y a eu des partis politiques, les nombres de partis politiques qui ont bénéficié de cette mesure, mais aussi les nombres de partis politiques qui n'ont pas aligné les femmes? Parce que ça, du moins, c'est inconstitutionnel, ça ne respecte pas la loi portant modalité de mise en œuvre des droits de la femme et de la parité. Même si ça suit la loi électorale, nous disons que la loi électorale étant inconstitutionnelle, nous ne pouvons pas considérer ça, mais quand même, nous avons besoin de résultats.
Julienne Lusenge, les 16 jours d'activisme coïncident avec la campagne électorale en RDC de plus en plus, hein, même si ce n'est pas très significatif, il y a quand même beaucoup de femmes qui se sont présentées, hein, aux différentes élections, c'est-à-dire législatives, nationales, provinciales. Mais vous, en tant qu'activiste de droits de femmes, vous faites partie de la synergie paix et sécurité.
Non, c'est femmes, paix et sécurité.
Voilà. Vous suivez la campagne électorale comme tout le monde. C'est vrai que ça ne se déroule pas toujours dans un climat de paix. C'est pas toujours apaisé. Qu'est-ce que les femmes peuvent faire aujourd'hui? Quel pourrait être leur apport pour que cette campagne se déroule dans un climat de paix?
Bon, vous savez, nous venons ici justement pour lancer le message de paix. Nous voulons que les candidats débattent sur des projets de société, sur des programmes. Pas aller citer, aller commencer à s'insulter. Les candidats sont supposés être des leaders. Alors, c'est quel modèle ils sont en train de donner aux gens, aux jeunes? S'insulter? Est-ce que c'est ça le modèle qu'ils veulent donner, le modèle des politiques congolais? C'est ça que nous ne voulons pas. Qu'on débatte sur les programmes, sur les projets de société. Qu'on nous dise, les nouveaux doivent nous dire, nous on va là-bas parce qu'on va vous faire ceci et cela qui n'avait pas été fait. Et les anciens doivent nous dire, nous voulons y rester, envoyez-nous encore parce que nous vous avons fait ça, 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 nous voulons encore améliorer, nous allons ajouter ceci, nous allons ajouter cela. Et là, les Congolais vont regarder et évaluer et adhérer dans les projets qui les intéressent. Qu'on arrête de tromper la population avec des polos, des boissons, de ceci. C'est ça que nous ne voulons pas. Parce que quand on va commencer à s'insulter, ce sont les deux camps qui vont commencer à s'enfoncer. Les jeunes vont commencer à monter et à s'entretuer dans les villages. Et c'est tout le monde qui va perdre. Nous voulons qu'on a déjà un gros souci avec l'Est, avec Bunangana. Donc nous voulons pour le reste du pays, il faut que les candidats puissent parler la paix. Et je voudrais ici insister. On a vu les guerres de l'Est se passer sur les corps des femmes. Quand les milices, quand les militaires rentrent dans les villages pour se battre, c'est les corps des femmes qui étaient le champ de bataille. Et aujourd'hui, on est en train encore de suivre les candidats qui se battent, qui veulent se battre sur les corps des femmes. Le corps des femmes n'est pas un champ électoral, des batailles électorales. Il faut qu'on se batte par les idées, par les arguments pour convaincre les Congolais. Le fléau des violences sexuelles a détruit notre pays. C'est la honte pour le Congo. C'est la honte pour les dirigeants. Et donc, ils ne peuvent pas commencer à utiliser ça pour ridiculiser, pour chercher à anéantir ou affaiblir un autre candidat. Réparer. Est-ce que ça représente la douleur des femmes? Parce que quand on parle de cette question, quand on banalise cette question, c'est toutes les femmes qui sont insultées, qui sont banalisées. Donc, on voudrait vraiment que ça s'arrête. Qu'on parle des idées, qu'on débatte sur les idées, qu'on arrête de dire seulement votez-moi, votez-moi. Non, non. Votez-moi parce que j'ai tel programme qui va améliorer votre condition de vie, qui va faire avancer notre pays, qui va restaurer la paix. Nous voulons dire aux jeunes de ne pas continuer à se laisser instrumentaliser par ces leaders. Ils ont vu ça depuis des années et des années. On les amène juste dans les violences. Après, quand les gens sont maintenant élus, ils sont au Parlement, ils sont des ministres, ils vous oublient. Donc arrêtez de jouer pour les autres. Nous, en tant que femmes, nous voulons la paix. Que les candidats fassent la campagne dans la paix. Qu'ils se battent sur les idées et qu'on nous laisse, nous, électrices, électeurs, écouter et analyser pour voir qui est meilleur que nous pouvons voter.
Elodie Tamuzinda, les femmes veulent la paix, mais comment ces femmes participent-elles à cette paix et sécurité pendant cette période électorale? Vous, par exemple, activiste des droits des femmes, qu'est-ce que vous faites pour que cette campagne soit apaisée?
D'abord, nous ne sommes pas là juste pour la période de la campagne. La synergie s'est mise en place, ça fait de cela plusieurs mois, et c'était suite au constat malheureux que venait de décrire notre collègue Annie. Vous voyez qu'il y a des sommets et des sommets qui s'organisent autour de la paix. Et les chefs d'État qui sont toujours en mouvement, dans des colloques, dans des réunions, mais par après, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Et vous allez voir que dans de telles circonstances, les femmes sont absentes. Alors nous avons dit que nous sommes femmes, nous sommes mères, nous sommes épouses et sœurs lorsqu'il y a juste des problèmes. Mais lorsqu'il faut réfléchir pour trouver des solutions, nous ne les sommes plus. Il fallait rappeler nos dirigeants, qui sont nos enfants, qui sont nos maris, qui sont nos amis, qui sont nos voisins, que non, la paix
ne parachutera pas lorsque nous aurons une société déséquilibrée, où cette femme n'a plus sa place, on ne comprend plus ce que la femme peut faire. Vous allez trouver que dans tout ce qu'il y avait comme sommet, il n'y avait pas la dose féminine, il n'y avait pas cette donne où les femmes devraient aussi se solidariser entre elles, femmes du président, femmes du ministre, jusqu'à la femme du huissier et de l'agriculteur. Nous toutes ensemble, main dans la main, pour dire nous contribuons aussi à ce qui s'est fait. Et ça ne pouvait pas aussi venir comme un cadeau. Il a fallu que nous oublions d'abord tout ce qui nous divise, nous comme femmes, et voir juste ce qui nous réunissait. Ce qui nous réunissait s'appelait la RDC, la paix et la stabilité de nos institutions. Nous remercions encore Maman Julienne, c'est pas puisqu'elle est là, puisque c'est même dans les écrits, c'est son initiative. Aujourd'hui, le processus électoral nous invite, nous interpelle. Nous ne pouvons pas parler juste paix lorsqu'il s'agit de réfléchir quels sont les alliés, comment solidariser avec les femmes au niveau africain, ainsi de suite. Mais nous devons aussi nous demander comment est-ce que nous choisissons nos dirigeants, comment est-ce que nous accompagnons le processus démocratique, comment est-ce que nous devons prôner cette paix durable aussi pendant la période électorale. Ça ne nous arrange pas, ça ne nous honore pas de voir ce que Maman Julienne venait de décrire là-bas. C'est une honte, puisqu'on ne nous suit pas seulement en RDC, on nous suit même au-delà de nos frontières. Et donc, nous sommes là pour interpeller, éveiller la conscience de la population.
Et vous le faites comment? Par quel canal?
Nous le faisons, comme nous avons dit que nous avons des points focaux dans nos provinces. Lorsqu'il y a un message à lancer, c'est chaque point focal qui le fait avec ses collègues au niveau des provinces, de la même manière que nous le faisons aussi au niveau de Kinshasa. Par contre, j'ai parlé des limites, j'ai parlé aussi des contraintes. Nous n'allons pas dire que ça se passe comme si c'était sur des roulettes. De la même manière que nous avons parlé des difficultés liées même à l'accompagnement au processus électoral, liées au séjour d'activisme, nous avons aussi ces contraintes pour vraiment cette coordination, pour que tout ce qui remonte, le monitoring, soit bien relayé, soit aussi vulgarisé, mais nous ne baissons pas les bras.
Parlons de la vulgarisation, Annie Maudit. Est-ce que vous avez l'impression que vos messages touchent un grand nombre de Congolais? Parce qu'on a l'impression que vous devenez beaucoup plus active seulement pendant la campagne.
Non, j'ai dit non.
Vous devenez beaucoup plus active quand il y a la campagne qui commence, mais après, vous baissez un peu les bras.
Les organisations qui existent depuis des années,
bien
comment
sûr.
Baisser les bras? Nous réalisons les activités tous
beaucoup,
les temps.
Vous êtes beaucoup plus active pendant la campagne. Ça, Madame Maudit va répondre à la question.
Les 16 jours d'activisme, on doit rappeler que c'est une période qui a été établie pour une prise de conscience collective. Et ça a deux facettes. D'une part, c'est aussi célébrer, mettre en lumière tout ce qui est réalisé. Comme Mme Julienne dit, nous réalisons beaucoup de choses. Il faut savoir que la plupart des organisations féminines ont peu accès à peu de financements. Lorsqu'on regarde sur l'échiquier des financements d'aide au développement et tout, les organisations féminines accèdent à moins de 5%. Des financements. Et avec moins de 5%, de manière globale, les femmes se concentrent sur ce qui est essentiel. On n'a pas toujours aligné les ressources pour la visibilité de nos actions, surtout parce que la plupart des activistes qui travaillent pour la communauté, pour la réponse humanitaire, pour la lutte contre les violences basées sur le genre, ne les font pas pour se faire élire. C'est pour vraiment donner les solutions aux problèmes. Ce qui fait qu'on préfère ne pas investir dans les panneaux ou dans les publicités, mais investir dans l'être humain, puisque une femme qui est aidée par rapport à la violence sexuelle, une femme qui est arrivée à se reconstituer, c'est une femme qui va prendre en charge sa communauté, sa famille. Donc ça déjà, ça fait que nous ne pensions pas que ce soit important que nous puissions investir pendant toute l'année plus dans la visibilité de ce que nous faisons, parce que ça sera déjà dilapider les peu de ressources que nous arrivons à avoir.
Maintenant, parlé de vulgarisation.
Maintenant, je reviens. Maintenant, en termes de vulgarisation, nous parlons ici des plaidoyers que nous menons. Il faut qu'on situe la vulgarisation. D'une part, nous faisons la vulgarisation des textes de loi auprès de la majorité de la population afin que les femmes surtout puissent connaître leurs droits, mais aussi d'autres membres de la communauté puissent connaître leurs droits et devoirs et leurs limites, parce qu'il y a des êtres humains qui dépassent la limite que les lois leur donnent pour empiéter sur le droit des femmes. C'est pour ça que nous parlons des inégalités que nous vivons dans la société, des violences sexuelles. Maintenant, de l'autre part, ce que nous faisons auprès des autorités ou ce que nous faisons ici, c'est la sensibilisation, bien sûr, mais nous faisons beaucoup de plaidoyers. Les plaidoyers, c'est des actions pour amener les décideurs à prendre les décisions appropriées et répondre aux problèmes de la société, aux problèmes des femmes, des violences sexuelles, des paix, selon les lois, parce que nos actions sont basées sur les droits humains. Donc, qu'à cela ne tienne, les défis restent, parce que on doit rappeler à chaque fois que c'est l'État qui a le devoir de vulgariser les textes des lois. La plupart de nos lois, ça passe à Kinshasa en français au Palais du Peuple, mais nous avons la majorité de la population qui vit à l'intérieur du pays. Les lois ne sont pas traduites pour commencer, les lois ne sont pas mises dans le format qui soit accessible. Parce que même si on traduit en lingala, en swahili, en tulba ou en kikongo, il faudrait savoir lire et écrire pour déchiffrer les lois traduites dans sa langue. Donc, il y a plusieurs formats que la plupart d'organisations utilisent, des théâtres, les sensibilisations porte à porte, on utilise des mégaphones pour faire les chansons, pour faire connaître les lois. Donc, il est important que vous puissiez, au fait, noter que nous faisons le travail de vulgarisation dans la population, mais auprès des décideurs, nous faisons beaucoup de travail de plaidoyer. Et peut-être pour revenir sur un commentaire que vous avez fait, nous n'attendons pas les 16 jours d'activisme. Et comment nous faisons? Nous capitalisons aussi sur toutes les opportunités qui peuvent arriver. Nous avons fédéré les efforts, mais chacune des activistes a derrière elle un carnet d'adresses, a derrière elle de personnes auprès desquelles elle peut accéder. Donc nous maximisons. Si je suis au Conseil de sécurité des Nations Unies, je parle, je porte le message de la synergie. Si Maman Julienne se retrouve à Berlin ou à Genève, elle porte le message de la synergie. Donc, d'une part, nous fédérons nos efforts, mais en même temps, nous capitalisons sur la spécialité ou l'expertise de chacune afin que nous puissions capitaliser, mettre la lumière, amplifier sur nos voix autant que nous pouvons faire, mais les défis restent énormes. Le manque de volonté politique, c'est très important qu'on les souligne, dans les chefs des décideurs, même lorsqu'elles sont femmes. Nous sensibilisons aussi pour que ceux qui battent leur campagne arrêtent avec le message des haines. Arrête avec les messages de tribalisme. Arrête avec les messages qui divisent. Il faut plus les messages qui unissent, plus les messages qui favorisent la cohabitation entre peuples, plus de messages qui apportent la lumière et que la patrie soit au-dessus de nos tribus, de nos provinces, parce qu'au finish, élu président ou député national, on ne porte pas que sa circonscription, on porte la responsabilité de toute une nation. La honte qu'il y a sur la RDC en ce qui concerne le manque de respect des droits des femmes, c'est juste horrible. Vous savez pourquoi? La RDC est parmi les premiers pays en Afrique à avoir inscrit les principes de la parité dans la loi, avoir fait voter la loi sur la parité. Mais aujourd'hui, la RDC reste le pays qui est pointé du doigt en termes de manque de respect des droits des femmes, des violations sur le droit des femmes, des violences sexuelles qui sont commises pas seulement par des groupes armés étrangères ou les groupes armés qui sévissent à l'Est. Même la partie qui est contrôlée par le gouvernement, par exemple, nous avons eu des cas de violations flagrantes. L'exemple de ce qui s'est passé à Malimbankoulou, ça démontre ça. Si nos propres frères agissent comme ça, amènent la guerre sur le corps d'une femme congolaise, mais comment ils vont avoir le courage de condamner les étrangers qui feraient la même chose? C'est tout ça les messages que nous apportons. Nous appelons la prise de conscience collective de tous. La paix, les dialogues est très important.
Madame Julienne, vous vouliez réagir tout à l'heure.
Oui, j'allais réagir en disant que nous n'avons pas seulement choisi les moments ici. Nous sommes toujours là, nuit et jour, des années, des années, des années et des années. On travaille. Les jeunes nous rejoignent. Nous vieillissons, nous continuons, il y a d'autres qui arrivent. Nous avons organisé plusieurs missions diplomatiques, la diplomatie préventive, ici à Kinshasa. Comme Elodie a dit, les sœurs de Goma ont organisé aussi, et elles vont continuer. Nous aurons des messages que nous allons passer, des spots que nous avons déjà composés sur la paix qui vont être diffusés. La radio Okapi est la première radio que nous sommes venus parce que nous n'avons pas l'argent pour payer tout ça. Donc nous allons revenir plusieurs fois ici à Radio Okapi pour faire passer nos messages de paix. Nos collègues aussi dans le sud Kivu, le nord Kivu, l'Ituri, vont aussi diffuser des messages. On continue, même les autres Tanganyika, les autres provinces vont aussi faire la même chose. Donc pour diffuser des messages, rassembler des gens, parler aux jeunes. Nous avons des périodes de paix que les organisations ont installées dans les communautés pour résoudre les conflits. Parce que nous ne voulons pas qu'on enflamme le village à cause des intérêts politiques. Nous voulons que nous puissions travailler tous pour la paix. Nous avons déjà un gros souci avec ce qui se passe. Maintenant, mettons-nous ensemble. Parce qu'on ne doit pas continuer à pointer des doigts. La communauté internationale ne fait rien. Chaque Congolais doit faire quelque chose pour construire la paix.
Mais est-ce que vous arrivez à échanger avec les candidats sur leur discours auprès de la population, au sein de la population?
Déjà même avant la campagne. À chaque fois que nous, on rencontrait un candidat, un futur candidat, un probable candidat, on passait ce message. Et quand on a des messages qui sont comme ça, qui sont violents ou des messages de haine, nous disons aux candidats, il faut former vos militants avant, pendant et même pendant toute la période après les élections. Les préparer pour être des bons citoyens, pas des chiens qu'on envoie pour aller mordre les gens, mais des citoyens, des personnes qui connaissent pourquoi je suis dans un parti politique. C'est pas pour applaudir, c'est pas pour danser, c'est pas pour chanter. Donc, ça c'est très important. On leur dit. Vous savez ce qui se passe. Moi, je me demande qu'est-ce qui arrive dans les têtes de nous tous Congolais. Pourquoi nous pensons qu'il faut insulter, il faut faire des bêtises, il faut se comporter, faire la barbarie, si je peux me permettre, comme m'excuse d'utiliser des termes comme ça ici, pour croire qu'on va être maintenant vu comme un gang, comme je ne sais pas quoi, un homme qui vaut plus que les autres. Nous devons être humbles, nous devons travailler pour notre pays. Le pays les gens ont beaucoup souffert. La population a beaucoup souffert. On n'a pas besoin d'ajouter encore d'autres souffrances. Nous avons intérêt à travailler tous ensemble pour contribuer pour la paix. Nous devons restaurer la paix. Comment? Par nos langages. Nous devons arrêter de parler de tribalisme. Nous devons arrêter de dire tel et de ceci ne peut pas venir ici c'est chez moi. Non, le Congo est pour tous les Congolais. Nous devons aussi amener ces gens à comprendre les droits, les lois. Que dit la loi électorale? Que dit la constitution? Qui est Congolais et qui n'est pas Congolais? Pourquoi les femmes peuvent aussi participer? Et nous demandons aux femmes de se préparer, d'avoir les réponses aux questions des journalistes. Nous avons tout fait pour chercher les moyens pour former les femmes, comme nous avons toujours fait dans les années passées. Mais cette année, on n'a pas eu les financements pour faire les formations. Mais malgré ça, on a fait des formations en ligne, on parle aux gens, aux candidats, on essaie de les approcher, on essaie de, dans les groupes, partager des informations. Parce que pour nous, c'est vraiment capital. Moi, là, j'ai l'expérience de vivre, j'ai déjà vécu la guerre en Ituri. Donc, je connais la souffrance quand il y a la guerre. Les gens qui n'ont jamais vécu dans la guerre en parlent ou pensent que ça peut arriver, ma foi. Non, non, non. Quand la guerre arrive, c'est pas facile. Et c'est tout le monde. Tu peux mourir, même si c'est toi qui pensais être protégé. La balle peut t'attraper. Donc, on ne veut pas perdre ce qu'on a déjà. On veut bien construire là-dessus et avancer, améliorer chaque pas de notre vie. Les jeunes qui viennent, les enfants qui naissent actuellement, quelle image ils ont? Pourquoi ils doivent suivre les insultes à la télé, à la radio, dans les groupes? Pourquoi on doit suivre ça? Et les gens qui partagent des messages de haine, là où les gens se sont insultés, pourquoi partager? Chaque fois que je vois des choses comme ça, quand je dis pourquoi? Mais j'ai trouvé dans un groupe que je dis non, non, non. Partageons des messages éducatifs, des messages qui construisent notre nation. C'est ça que nous voulons.
Madame Mélodie Tamozinda, Madame Lusenga parlait tout à l'heure des formations. Est-ce que les femmes, elles sont nombreuses à venir à vos formations?
Comme Madame Julienne vient de le dire, nous avons eu vraiment des difficultés de trouver de quoi former, pas en Zoom, mais nous voulions des formations en présentiel.
Non, même lorsque vous avez des moyens pour le faire, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent à vos formations?
Dans toutes les provinces. Nous n'organisons pas seulement à Kinshasa, nous organisons aussi dans toutes les provinces. Vous comprenez que nous avons tenu à organiser le forum national où les femmes des provinces devraient aussi venir et ça serait comme une formation des formatrices. Elles aussi, à leur tour, devraient former au niveau local. Et dommage que cela n'a pas été fait. Mais pour le moment, nous avons réussi quand même à collaborer avec le Parlement des jeunes sous l'impulsion de l'Union africaine et de l'Accord, qui est une organisation sud-africaine. Nous avons eu quand même quelques candidates qui sont formées, qui sont en train d'être formées. Présentement, c'est au Musée national. Et d'ailleurs, juste après cette émission, nous devons aller clôturer la formation. Mais cela n'a pas été notre plan. Notre plan était de former celles qui devraient former à leur tour, et cela devrait se passer en amont. Mais compte tenu des contraintes, nous avons pu faire ce que nous avons à faire. Donc c'est pour dire que tout ce que nous faisons, c'est à long terme. Nous ne courons pas derrière les événements, nous anticipons. Et c'est pour cela que Mme Julienne venait de parler aussi de la diplomatie préventive. En ce qui concerne la paix, puisque nous savions que le processus électoral a toujours été passionné. C'est un processus qui fait appel aux émotions, démesurées souvent. Et c'est là où nous avons pris tout un bâton de pèlerin. Donc nous avons eu un calendrier très chargé pour rencontrer toutes les autorités, les ambassades. Nous avons rencontré même les personnalités, les hautes personnalités, chacune à ce qui la concernait. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il y ait le point que nous n'avons pas touché. Le message est que la voix de la femme que nous sommes aujourd'hui, qu'on ne nous prend pas seulement comme femme, nous rappelons nos auditeurs que nous sommes les mères. Nous avons ces soucis-là de voir nos enfants croître, grandir dans un climat apaisé. Le processus électoral aujourd'hui n'est qu'un enjeu parmi tant d'autres. Pour développer notre pays, ce n'est pas seulement les élections. Pour que nous ayons la paix, ce n'est pas seulement les élections. Et donc, nous voulons à ce que nous prenions en compte tout ce qu'il y a comme environnement autour de nous, que nous puissions les transformer à un climat apaisé. Toutes les femmes, surtout puisque nous les femmes, nous avons cette influence que nous négligeons. Les femmes qui sont au foyer, les femmes qui sont dans les bureaux, partout où elles se trouvent, chacune doit jouer son rôle de médiatrice, de faire aussi la prévention, surtout, et ne pas attendre les feux pour l'éteindre. Il faut juste prévenir qu'il n'y ait pas ces feux-là. Merci.
Annie Maudit, nous sommes dans un contexte particulier, les élections, c'est la campagne électorale. Dans quelques jours, nous aurons les élections en RDC. Quel message vous lancez aujourd'hui sur l'importance même de la paix et la sécurité pendant cette période?
J'ai commencé par parler de l'importance de porter le message qui soit apaisé, pas le message qui va allumer les feux. C'est ainsi que je fustige, et au fait, toutes les femmes dans la synergie, nous fustigeons les messages des haines, des tribalismes et des divisions. Alors, pendant cette période ici, je pense qu'il est très important pour nous de continuer à sensibiliser surtout la jeunesse qui est pleine d'énergie et qui doit au fait jouer un rôle important de se choisir des représentants qui incarne le mieux leur vision de la RDC qu'ils veulent. On ne doit pas aller choisir parce que la personne a donné un polo, a donné de l'argent, a donné... Il faut que chaque citoyen, citoyenne avec la carte électeur prenne le temps d'analyser les programmes qui présentent les candidats présidents, mais on doit aussi sensibiliser sur le rôle du parlementaire. Les députés n'ont pas pour rôle de construire les ponts, de construire les hôpitaux, de construire les routes. C'est important que ça soit clarifié, puisque par moment, on a mal choisi les représentants parce qu'il a promis les ponts. Mais ce n'est... après, on n'a pas eu le pont, on l'a traité de menteur. On doit sensibiliser, éduquer la jeunesse pour que cette jeunesse puisse faire le choix important, le choix judiciaire qui représente sa vision de la RDC. Deuxièmement, il est très important pour nous qu'on continue...
On va y aller rapidement.
D'accord.
Parce que nous sommes à la fin de l'émission.
D'accord. Nous continuons à parler aux candidats. C'est important pour que les candidats... Il y en a qui ont postulé juste, je ne sais pas pourquoi ils ont postulé, pour 500 postes, on a plus de 24 000 candidatures. C'est énorme. Ça démontre aussi la situation économique ou de l'état de pauvreté que dans lequel nous vivons. Et alors, on doit voir les candidats qui vont le plus donner de l'espoir. Et après, on doit prendre l'habitude d'évaluer et de demander des comptes aux représentants. Je pense que c'est ce que nous n'avons pas fait en tant que population dans le passé. On vote, on revient, on veut voter encore parce qu'il est de chez nous, parce qu'il parle notre langue. Mais est-ce que nous avons évalué la mission que la personne avait et les résultats qu'il a atteints? Pourquoi il ou elle n'a pas atteint ces résultats? Pour que la population aussi puisse tirer profit de ces processus. Donc c'est un moment qui est très important, c'est délicat en même temps. Je crois que nous avons mentionné, nous ne devons pas oublier que nous sommes en conflit. Les conflits n'est pas terminé. À Nitouri, au Nord Kivu, il y a les conflits, ce n'est pas terminé. Et les élections, ça peut aussi être les feux, ça peut être les pétroles ou l'huile qu'on va rajouter sur le feu. Il ne faudrait pas que les candidats puissent exacerber les tensions qui existent déjà.
Merci, Madame Annie Maudit. Vous avez une minute, Madame Moussengue, pour votre conclusion.
Oui, je voudrais seulement dire à la population d'arrêter de dire aux candidats ne nous amenez pas les paroles, amenez-nous l'argent. L'argent va vous amener à l'esclavage. Donc, écoutez ce qu'il dit et discutez avec lui et donnez-lui un programme quand il va et pour que vous puissiez lui demander des comptes quand il va revenir.
Elodie Tamuzinda.
Après les élections, il y a une vie. Et donc, que ce processus électoral ne nous plonge pas dans des débats qui vont nous diviser davantage. Nous devons juste nous dire, ensemble nous irons loin, puisque nous aurons toujours besoin d'un plus petit que nous. Et donc nous sommes ensemble et nous devons y aller, sensibiliser que la paix soit durable.
Annie Maudit.
Sans la paix, il n'y a pas de développement. Divisé, on ne peut pas gouverner les pays. Alors nous devons être unis et nous rappeler tous que la patrie est au-dessus et doit rester au-dessus de nos intérêts individuels et personnels. Et sans la femme, sans la participation de la femme, nous n'avons pas la patrie, nous n'avons qu'un club des hommes. Alors nous voulons que le processus soit inclusif.
Merci mesdames d'avoir pris part à ce débat. C'était un plaisir de vous recevoir dans le dialogue entre Congolais. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, Jonathan Konani, Hervé Vokia, Guy Maté, Donna Madimba, Pierre Diassinois, présentation et coordination, Kéline Pouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.